commencer Bezrat Hashem le 9e chapitre d'Igaret Hatshuva. Il me semble que le 8e chapitre on l'avait terminé, en tout cas on l'a terminé à l'oral. Mais pour rime entre temps il y a beaucoup de choses, donc on va démarrer un nouveau chapitre. Et je voudrais merci. Chapitre 9. Alors, je voudrais dire quelques mots à propos de la situation en Eretz Israël. D'accord ? Comme vous le savez, ce matin, il y a eu un missile. C'est un missile, hein ? Vous appelez ça comme vous voulez, mais un missile qui est tombé dans une maison à 30 km de Tel Aviv. Donc, on est en plein centre d'Eretz Israël. Et on a vu de nos yeux, et c'est pas moi qui le dis, c'est le commentateur télé, bonsoir, qui n'est pas un juif religieux, forcément, et qui dit clairement, on a été témoin d'un miracle. Il dit, alors pour reprendre ses mots, il dit, bonsoir, Nes Mamash, un vrai miracle. Je sais pas si vous avez vu les photos de la maison.
Éventrée.
D'accord, mais c'est même pas éventrée, c'est complètement détruite par le missile. Et on se dit qu'à l'intérieur, il y avait 7 personnes, dont des enfants, dont des bébés qui dormaient, qui étaient là-bas, qui dormaient, c'était en pleine nuit, 5 heures du matin. Et comment il a dit là-bas le commandant de la police? Il a dit, on aurait dû se lever avec un matin de 7 levayotes. Ben oui, c'est la réalité. Mais c'est la réalité, n'imaginez pas, je ne sais pas si vous avez les photos. Et il dit, on se réveille avec un matin, bon, quelques blessés légers, etc. Bon, enfin, ils vont s'en sortir, quoi, si tu veux. Donc c'est un miracle. Alors, d'un autre côté, c'est un miracle, mais c'est quand même une situation qui est tendue. D'accord? Donc, la vérité, c'est pas que j'étais content, mais en général, vous savez, nos ennemis, ils nous attaquent en général le mois de Av. Je sais pas si vous avez remarqué.
Oui.
Souvent, le mois de Av, ça chauffe en Israël. Et c'est compliqué. D'accord ?
L'approche des fêtes.
Non, mais voilà, c'est souvent le mois de Av. Et là, ils ont choisi le mauvais mois.
Oui.
En plus, c'est 18. Parce que c'est le mois de Hadar. C'est le mauvais mois.
On est le 18.
D'accord ? Alors, en plus, on voit qu'on dans le monde de l'autre côté, il y a Trump, etc. Ouais. Entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous protège, donc il ne faut pas s'inquiéter. D'un côté, on doit bien sûr dire des Tehillim pour eux, parce que probablement que les jours qui suivent, s'ils font les choses comme il faut, probablement que les jours qui suivent, ça va un petit peu chauffer. D'accord ? Mais il ne faut pas s'inquiéter. Le même Akadosh Baruch Hu qui nous a protégés à l'époque de Haman, ce même Akadosh Baruch Hu nous protégera à l'époque de Abu Mazen et de Abu Mongol et d'Abu Kitu. Voilà.
J'ai entendu tout à l'heure. On dirait que de Washington, l'imam tunisien, Balgoum.
Oui,
Balgoum.
D'abord, il a appris à parler.
Non, mais il est de Drancy, lui.
Il ne peut pas descendre,
il est de Drancy, celui-là. Il est pro-israélien.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
L'imam de Drancy.
Et qu'est-ce qu'il a dit ?
Il est pro-israélien, lui.
Anti-musulman, purement.
Islamiste, il a critiqué.
Et puis, il a appris à parler.
Non, mais il suffit qu'un ait un peu commence. Il faut qu'un ait au moins un peu commence.
Non, mais ça fait longtemps. Mais il va le tuer, lui.
Il a des gardes du corps.
Il a des gardes du corps.
Bonsoir. Bonsoir. Donc, je disais que c'est le joueur, c'est les livres, il y a des livres encore. C'est les livres. Il y a un livre là-bas. Donc, je disais que d'un côté, on est inquiet pour nos frères en Israël, mais d'un autre côté, on est rassuré parce qu'on sait que Iné le Yanoum ve le Yishan Shemar Israël, que Akadosh Baruch Hu nous dort et nous sommes nuls jamais. Et on sait aussi ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit que la terre d'Israël, c'est une terre sur laquelle les yeux d'Hachem sont rivés. Mais Reshit Hashana, Vad Acharit Shana. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, Dieu a toujours les yeux rivés. Et je vous dis la vérité, quand j'ai vu les photos ce matin, ça m'a rappelé un vieux souvenir d'enfance, des années 91, dans lesquelles on voyait souvent des photos comme ça, de maisons éventrées et de gens qui souriaient de l'intérieur, du style Baruch Hashem, on n'a rien. Donc, Hine, le nom de Hashem en Israël. Avant de commencer, je voulais vous faire une autre confidence. C'est que quand je m'apprêtais à venir en cours ce soir, je pensais qu'on allait être pas nombreux.
Moi aussi.
Parce qu'il paraît qu'il y a un match de foot, je sais pas quoi. Et donc je me disais, c'est mes frères qui m'ont dit. C'est mardi ce soir, il y a un match de foot. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde, etc. Et je m'attendais à ça. Et là, quand je vois qu'il est à peine 9h40 et qu'on est plus nombreux que d'habitude, je me dis, Baruch Hashem, j'ai de quoi être fier.
Voilà,
Baruch Hashem, voilà.
Israël.
Voilà la beauté du Kahal. Franchement, je vous félicite, Kol HaKavod. Mais pour être sûr de ne pas être dérangé, on va mettre nos téléphones en mode avion. Comme ça, on va décoller tranquillement. Et vous inquiétez pas, l'équipe que vous voulez qui gagne, gagnera. Nous, on va décoller dans le Tania.
C'est le moins important, ça. C'est le meilleur, que ce soit sale qui gagne.
Exactement, voilà. Non, mais il y a des gens comme ça. Moi, je ne sais même pas qui joue contre qui. On m'a juste dit la France, je ne sais pas contre qui.
L'Islande.
Contre qui? L'Islande.
Non, très bien. Ils ont inventé ça, eux. C'est des matchs de
qualification. Ok. Alors, chapitre 9. Chapitre 9. Merci. Donc, aujourd'hui, chapitre 9 du Tania. Mourazaken.
Amen.
On va reprendre une idée qu'on a expliquée dans le chapitre précédent, à la fin du chapitre précédent. Il a expliqué que dans la Teshuvah, il y avait deux niveaux. Il y avait ce qu'on appelle une Teshuvah Ila'a et une Teshuvah Tata'a. Je vais traduire, je vais expliquer très rapidement. Il y a ce qu'on appelle une Teshuvah de bas niveau et une Teshuvah de haut niveau. Quelle est la différence? On va donner des exemples concrets, des exemples clairs, pour expliquer dans la vie de tous les jours comment on retrouve ça. Lorsqu'on analyse le parcours de gens qui font Teshuvah, il y a deux catégories de gens qui font Teshuvah. Première catégorie, c'est des gens qui font Teshuvah parce qu'ils ont eu peur de quelque chose. Il y a eu un switch qui s'est passé. Par exemple, ils ont perdu un proche, Dieu préserve. Ou par exemple, ils ont eu un revirement dans les affaires. Ou par exemple, ils ont vu la main de Dieu de façon claire, sans équivoque. Donc ça, tu peux pas ne pas faire Teshuvah. Mais ça, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar une Teshuvah de bas niveau. Pourquoi? Pas parce que c'est une mauvaise Teshuvah. Parce que c'est une Teshuvah dans laquelle, toi, tu es revenu vers un Kadosh Baruch Hu, mais si tu veux, tu as adapté à Kadosh Baruch Hu par rapport à ton vécu. Donc tu as retrouvé Hachem dans ton vécu, mais quelque part, tu t'es pas vraiment dépassé pour lui. Tu l'as retrouvé, tu as fait un grand effort pour lui. Mais ça s'appelle une Teshuvah de bas niveau.
Voilà. Quel niveau tu dois avoir pour avoir Dieu
qui vient avoir. Alors j'arrive, j'expliquer. Et là, qu'est-ce que c'est la Teshuvah de haut niveau? Et là, on va expliquer, très vrai.
C'est vrai, s'il vous plaît, allons.
Alors, Jojo. Jojo. Alors regardez, voilà, voyez là, Jojo.
Surveille.
Attention, j'ai un dôme de fer là.
Ah oui, un dôme de fer. T'es tranquille.
La kippa de Barzel. La kippa de Barzel. Je reprends. Donc il y a la Teshuvah de bas niveau et la Teshuvah de haut niveau. Et aujourd'hui, on va, comme on vient après Purim, et que Purim, Baruch Hashem, comme a dit David tout à l'heure, Purim, Baruch Hashem, on a décollé. Donc maintenant, il nous faut passer à la deuxième. On va passer maintenant à la Teshuvah de haut niveau. La Teshuvah de bas niveau, c'est facile. Le gars, il a pris une claque, il s'est remis, il dit bon, c'est bon, je me range. Ok? C'est pas mal. Ça tient pas, c'est une autre question, mais c'est pas mal. T'as une Teshuvah après de haut niveau. C'est quoi la Teshuvah de haut niveau? La Teshuvah de haut niveau, c'est la Teshuvah qui est issue de la réflexion. On connaît des gens comme ça aussi. Et on va développer aujourd'hui des gens qui ont fait Tshuva pas en un jour, qui ont fait Tshuva en 30 ans.
En 10 ans.
Moi, je connais des gens qui ont fait Tshuva en 30 ans.
En 30 ans.
Oui, ça veut dire quoi?
C'est possible de faire en un jour.
Ben, je vais t'expliquer. C'est des gens en fait qui n'ont pas eu de switch dans leur vie. Ils n'ont pas vu la lumière. Ils n'ont pas vu la lumière. Ça fait 30 ans qu'ils se cherchent. Alors, ils ont essayé l'Inde, ils ont essayé tout ce que tu veux. Ils ont essayé la religion qui s'appelle aussi être athée. C'est une religion, être athée. Quelle religion? Athée, d'accord. Monsieur. Et à la fin, ils se sont cherchés, ils ont beaucoup réfléchi, médité. Et à la fin, une fois qu'ils ont vraiment médité, des fois ça prend des années, là ils arrivent à la conclusion que Hachem émette. Que Hachem et l'Okechem émette. Que Hachem se l'émette. Et là, ils font une Teshuvah. Cette Teshuvah, c'est du béton armé. Pourquoi? Parce que c'est pas une Teshuvah qui est venue suite à un instant. D'accord? C'est une Teshuvah qui est venue avec une réflexion. Alors, maintenant, d'un côté, vous allez me dire, non, mais Mehdi, je suis pas d'accord. Pour moi, je pense que la Teshuvah d'une personne qui est venue, qui était chez le Rabbi, et qui a fait Teshuvah en un jour, en une heure, en une minute, il a connu un moment qui est beaucoup plus fort que celui qui l'a travaillé, ça fait 30 ans. Celui qui a travaillé, ça fait 30 ans, il n'a pas connu de grands moments. Seulement, on te répond, la chassidoute, tu te dis, c'est faux. Et tu dis, même celui qui a fait Teshuva en une fraction de seconde, parce qu'il était chez un rabbi, chez qui tu veux, on appelle ça toujours une Teshuva de bas niveau. Pourquoi une Teshuva de bas niveau? Parce qu'on ne sait pas si lui, au fond de lui, il a changé.
C'est-à-dire quoi?
Ah oui, ça veut dire comme ça. Ça veut dire quoi?
C'est le temps.
Regardez.
30 ans.
Rappelez-vous, c'est très simple, donnez l'exemple. Vous savez, on va pas tourner autour du pot. Rappelez-vous comment on était à l'issue du Yom Kippour. Vous savez combien de temps Kippour?
Ça va faire 5 mois.
Hein? 5 mois?
Hein? C'est ça, c'est dans un mois.
Non, mais non, il y a deux adaptes.
Ah oui, ça fait 6 mois.
Okay. Ça fait 5 mois et demi. Bon, rappelez-vous comment on était à l'issue du Yom Kippour.
On était bien.
Comment on était à l'issue du Yom Kippour?
On était très bien.
On était très bien, on sentait qu'on va changer. Comment on est aujourd'hui?
Comme on est.
Toujours très bien.
Comme on est, Baruch HaShem, toujours très bien.
Comment
Makara,
la dernière.
Makara, non mais attendez, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. T'as dit que t'allais changer, chaque année tu me refais le même coup, tu changes pas. Ou tu changes, mais bon, tu changes pas comme tu dis. Pourquoi? Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Parce que la teshuva qu'on a fait à Yom Kippour, c'est une teshuva de bas niveau. C'est une teshuva, à moins qu'elle ait été préparée par nous. Mais si elle n'a pas été préparée par nous, et qu'on a été inspiré directement par le jour de Kippour, c'est une teshuva qui ne peut pas tenir. C'est clair, elle peut pas tenir. Maintenant, elle est importante, c'est important qu'elle soit là, mais elle peut pas tenir. C'est une teshuva de bas niveau. La teshuva par la peur. Teshuva par la peur. Quand tu fais teshuva par la peur, ça marche tant que la peur est là. Dès que la peur s'en va, ben on s'en va, le problème s'en va aussi. C'est comme si tu veux éduquer un enfant par la peur. Tu l'éduques par la peur, ben ça marche tant qu'il a peur de toi. Le jour où il a plus peur, ben ça marche plus. Alors comment ça marche? Comment ils font maintenant? Quoi la technique, ceux qui vont par la peur? Ils disent, ben, tu sais quoi, on va surenchérir. Comme à l'époque, vous savez, à l'époque, les parents, ils frappaient les enfants. Comment ça marchait? Ça veut dire, à l'époque, tu commences par un petit truc. D'accord? Donc, il a peur. Après, quand le petit, quand la petite règle, elle fait plus peur, alors à quoi on va passer? Au bâton. Et quand le bâton, il fait plus peur, à quoi on passe? Il y a pas de limite. Ça marche pas comme ça. Ça veut dire que, une teshuva qui est par la peur, ça marche pas. Ça marche!
C'est comme ça qu'on crée qu'on crée des conflits comme ça. Tu vois? T'as un conflit intérieur. Tu sais, les guerres que tu dis là. Ça, c'est comme ça qu'on crée des conflits.
Alors, ce qu'il va expliquer aujourd'hui là de Morazaken. Morazaken, il te dit, on va t'expliquer que même l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comment tu vas les obtenir, par la réflexion. Et là, quand tu les obtiens par la réflexion, là, c'est une teshuva qui est de haut niveau, qui est profonde. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller dans les mots, on va avancer un petit peu. Oui, Ouraïn, il y a une explication du sujet. Pourquoi la teshuva de haut niveau est liée à la réflexion? Pourquoi tu lis ça à la réflexion? La vérité, on aurait été beaucoup plus tenté de s'imaginer la teshuva comme l'élan du cœur de quelqu'un qui est là, qui décolle, tout feu, tout flamme. Viens là de Morazaken, te refroidis net. Tu dis, ça c'est une teshuva de bas niveau. Mazal Tov, c'est très bien ce que tu as fait, mais c'est de bas niveau. Tu veux une... C'est très très bien, c'est Mazal Tov. Tu veux une teshuva de haut niveau? La réflexion. Pourquoi la réflexion? La réflexion, c'est un monde qui est froid a priori. Pourquoi tu me mêles la réflexion à la teshuva? Pourquoi je suis obligé de réfléchir pour faire teshuva? Et si je faisais teshuva par mon cœur, je me lance. Pourquoi ça marcherait pas? Réponse de l'Admor Hazaken. Il dit, je me base sur un texte du Zohar. On va développer. Kemo shekatu bezohar kadosh vetikunim bekama mekomot. Comme c'est écrit dans le Zohar, page 250. Comme c'est écrit dans le Zohar et dans les tikunim Zohar. Donc c'est écrit du Zohar dans plusieurs endroits. Des bina i teshuva ila. Là-bas, le Zohar nous dit que bina, bina, c'est la réflexion. C'est le degré supérieur de la teshuva. Pourquoi? Vehaem revetzet ala efrochim. Il reprend un verset dans le parasha qui t'etse, qui dit que la mère est couchée sur les petits. Vous savez, c'est comme la mitzvah qui dit que lorsque tu verras la mère qui est couchée sur les petits, si tu veux récupérer les enfants, tu dois d'abord renvoyer la maman. Alors, le Zohar a un commentaire sur ce pasouk. Il dit, c'est quoi la mère? La mère, c'est le symbole de bina, la réflexion. C'est-à-dire que là-bas, le Zohar, il dit, tout est géré par la réflexion. Non, c'est pas ça ce qu'on est en train de dire, parce que dans la tête de beaucoup de gens, ils ne définissent pas le judaïsme par la réflexion. C'est la vérité. Dans la tête de beaucoup de gens, tu dis, c'est quoi pour toi le judaïsme? Et pour moi, le judaïsme, c'est aimer Dieu, c'est craindre Dieu, c'est faire ses mitzvot, c'est, voilà, on vient de pourrir, on a fait des mitzvot, on a passé un bon moment, un moment familial, on a fait des mitzvot, on a mangé des bons repas, etc. Oui, mais, d'accord, mais c'est quoi pour toi être juif? Beaucoup de gens ne te répondront pas à la réflexion. Ils te diront pas que c'est la réflexion. Alors que vient de dire le Morazaken, t'amènes du Zohar, le Zohar te dit que c'est quoi la teshuva de plus haut niveau, c'est ce qui passe par la tête. La réflexion. Pourquoi? Dehaïnou, ça veut dire, on va expliquer, si vous voulez, on va faire quelques lignes, après on va s'arrêter. Dehaïnou, ça veut dire, Shaliyede shemit bonen begdulat Hashem be'amakat adat. Lorsque l'homme va s'approfondir, va méditer sur la grandeur de Dieu, avec approfondissement de l'esprit. C'est-à-dire le cours d'aujourd'hui, c'est pas du gâteau. On te dit pas, tu vas appuyer sur un bouton, ça va décoller. Pas du tout. On te parle de méditation. Méditation, c'est un mot qui fait un peu yoga. C'est quoi méditation? Méditation. Méditer à quoi? Méditer à la grandeur d'Hachem.
C'est dur.
C'est très dur.
C'est juste parce que c'est imperceptible.
Essayez par exemple ce soir, quand vous rentrez chez vous, si vous rentrez à pied ou si vous rentrez en voiture, quand vous voulez, vous éteignez la radio, vous n'avez pas d'écouteur dans la main, juste vous méditez. Tu médites 30 secondes. Tu médites une minute, c'est rien. 30 secondes, c'est rien du tout. Combien de temps il faut pour rentrer chez toi?
8 minutes.
5 minutes, 8 minutes. Je dis, pas 8 minutes, une minute. Médite une minute à la grandeur d'Hachem. Qui est Hachem pour toi? Comment Hachem est grand? C'est très difficile, comme dit Michael, c'est très difficile. Je vais réfléchir à quoi?
Parce qu'on ne peut pas se le représenter.
Eh oui, c'est ça. Donc en fait, je suis obligé de me casser la tête, d'essayer d'imaginer. D'imaginer qui est Hachem. Mais comment je peux savoir qui est Hachem? Qu'est-ce qu'il a construit? Comment il a fait? Comment c'est grand? Prendre du recul, du recul, du recul. Me casser la tête. Ah non, c'est pas me casser la tête pour me stam me casser la tête. C'est me casser la tête pour essayer de comprendre. Parce que Dieu a fait ici quelque chose, il a créé un monde.
Oui.
Maintenant, je peux pas me laisser aller. Une seconde. D'accord? Il faut réfléchir à ça. Je réfléchis. Et là, regardez ce qu'il dit. Ou molid mes ruar binato. Et que l'on engendre, donc par la compréhension, trilu uchimu sikhliim, une crainte et un amour intellectuel, ou betouf ta'am vedat, et bien raisonné. Keinyan chenema, comme il est écrit, toujours là-bas dans la paracha qui t'était, le ahava et hachem elokecha ki uchayecha, aimer l'éternel ton Dieu, car il est ta vie.
Il est comment?
Car il est ta vie. Tu fais qu'il est ta vie. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Ça veut dire, Morazaken te dit ici un mot très fort. C'est ça que te dire. Tu dis, il y a deux catégories de gens qui aiment et qui craignent. Tu as des gens qui aiment et qui craignent Dieu. Pourquoi ils l'aiment et pourquoi ils le craignent? Parce qu'ils ont peur. Depuis qu'ils sont petits, ils savent qu'on leur a dit que, écoute, tu dois avoir peur de Dieu parce que tout est entre les mains de Dieu et tu dois aimer Dieu parce que tout est géré par Dieu. Donc il le sait. Alors, est-ce qu'il l'a compris? Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, mais il le sait. Il a l'amouna en lui. C'est bien. C'est l'amouna dans le cœur. Est-ce que c'est bien d'avoir l'amouna dans le cœur? C'est très bien d'avoir l'amouna dans le cœur. Comme a dit tout à l'heure, c'est cachère. Mais là, on touche autre chose. Là, on cherche une émouna, un amour et une crainte à Kadosh Baruch qui est intellectuel. Maintenant, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un intellectuellement?
C'est difficile.
Est-ce qu'on peut aimer par l'intellect? Alors, le problème, c'est qu'on a la mauvaise définition de l'amour et de la crainte. Je vais expliquer ce que je vais dire. Prenez par exemple le cracker que j'ai devant moi. Je vais poser une question à David. Est-ce que tu aimes ce cracker?
Ouais.
Bon, pourquoi tu l'aimes?
Il a bon goût.
Réponds-moi une phrase.
Il est bon.
Parce qu'il est bon.
Donc ça veut dire que, comment tu définis l'amour de quelque chose? Je l'aime parce que je sais qu'il est bon. J'ai goûté une fois, j'ai vu qu'il est bon, donc je l'aime. Ok? Maintenant, juste au nom de David, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu aimes le cracker? Qu'est-ce que tu veux me répondre? J'en sais rien. Est-ce qu'il est bon? Maintenant, peut-être que Serge, qui est à côté de toi, il va dire, moi, j'aime pas ces crackers. Peut-être. D'accord? Et je demande à Serge, je dis, mais pourquoi tu n'aimes pas ces crackers? C'est ce qu'il va me répondre, Serge.
J'aime pas le goût, parce qu'il n'a pas un bon goût.
Ah oui, mais c'est vrai parce qu'il n'a pas un bon goût. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour et la crainte, bon là, il n'y a pas de crainte, mais c'est-à-dire que l'amour a été défini par rapport à une subjectivité, par rapport à ce que je suis. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi, est-ce que je dois aimer le cracker ou je dois pas aimer le cracker.
Ah non,
c'est ça. On m'a pas dit, écoute, on va présenter un produit, on va te présenter toutes les qualités du produit, après on te le fait goûter, et maintenant tu vas voir si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Non. C'est pas comme ça. Comment on a fait? On t'a donné directement, on t'a dit, écoute, tu aimes, t'aimes pas. Ça c'est une première qualité. Maintenant, imaginez une deuxième catégorie. Imaginez que devant moi ici, j'ai une bouteille de vin. Et que cette bouteille de vin, elle vaut 200 euros. Pourquoi elle vaut 200 euros? Donnez-moi un vin qui vaut très très cher. De quelle année? De quel millésime?
Cachère.
Quoi?
Médoc 76.
Smith Olafite.
Smith Olafite. Quelle année? Ah bon. D'accord. 200 euros, c'est possible? D'accord. 200 euros. Mais attendez. Non, moi, je suis pas amateur de vin. Non, il y a en face de moi David, lui, il aime bien le vin. Donc David, il va me dire, attention.
Attention, prends-la délicatement, là, ne la remue pas, hein.
Doucement, tu la respectes. Respect. Ça se respecte, cette bouteille. Je dis, mais attends, c'est une bouteille.
D'accord. Celui qui connaît, hein.
Voilà. Je dis, attention, respecte. D'accord? Donc moi, je la prends, je la secoue. Attention, non, ne la maltraite pas. C'est, doucement. Alors après, moi, je dis, bon, tire-bouchon. Ah, ok, on va ouvrir. Alors c'est bon, je sers. Non, attends. Faut qu'il décante. Laisse-moi me servir, qu'est-ce que tu veux? Non, t'as rien compris. Et après, je dis, bon, c'est bon, on peut se servir? Non. Qu'est-ce qu'il va me dire, David?
Sentir.
Une goutte.
On va sentir, après il va me servir. Après, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, attends.
Attends un peu.
Il y a de la cuisse. Hein?
Comment on fait?
Il y a des arômes.
Hein? Est-ce qu'elle a de la robe?
Est-ce qu'elle a de la robe?
Il y a de la cuisse. Donc c'est toute une préparation.
C'est toute une avoda.
Voilà.
C'est pas Stam. Maintenant, moi, je suis là direct, tac, tu es au père qui boit. T'as rien compris, papa. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, on fait pas comme ça. C'est un sacrilège que tu viens de faire. Alors, une fois que David, il m'a prévenu, il m'a dit, voilà, Mendy, comment on fait, et tu fais comme ça, et tu fais comme ça, et tu sens, après tu fais rentrer juste un petit peu dans la bouche, juste pour laisser le temps au palais de s'habituer au goût, comme ça, à fond, hein, d'accord? Et après, tu commences à voir progressivement, peut-être qu'avec cette préparation, je vais créer un goût que je n'aurais pas eu si on m'a pas prévenu. Peut-être. C'est-à-dire que si personne m'avait prévenu, j'aurais ouvert directement. Je sais pas que ça vaut 200 euros. Pour moi, ça vaut 5 euros. J'ouvre et je bois. D'accord? Peut-être que je serais passé à côté. Alors maintenant, Yves, il a raison. Yves, il dit, mais peut-être c'est une mise en condition. Et que la mise en condition, peut-être c'est de l'autosuggestion. C'est-à-dire que je vais me dire, ah, ils m'ont dit que c'est un bon vin. Certainement que c'est un bon vin. Alors qu'en vérité, c'est pas spécialement un bon vin. C'est possible. Mais bon, dans les faits, là, vous voyez, j'ai créé un goût avec ma tête. Vous me suivez? J'ai créé un goût avec la réflexion. C'est-à-dire autant le crackers. Autant le crackers, je me suis pas attardé sur l'histoire, Joseph. Mais du vin. Hein? Attendez, mais j'ai pas fini. Il a une question, monsieur Vinitama. Après, deux secondes. Alors, autant le crackers. Pourquoi le crackers, tu t'es pas posé ces questions? Parce que combien ça vaut la boîte de crackers?
Ça vaut rien du tout.
Ça vaut rien du tout. Enfin, ça vaut quelques euros. Donc tu dis, bon, je le prends, je le goûte, j'aime, tant mieux, j'aime pas, la prochaine fois, je serai une autre marque. Ça arrête là. Mais quand on dit attention, ça c'est un, comment t'as dit, médoc, je sais pas quoi, bon, d'accord? Ah, ça se respecte. Donc ça veut dire quoi? J'ai créé un goût avec ma tête. C'est la réalité. Bien sûr.
Il y a la qualité du produit.
Bien sûr qu'il y a la qualité du produit. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de dire que le goût est faux. Ce goût est vrai. Mais pour le créer, on a utilisé l'intellect. Et bien sûr, tu vas aller au restaurant, d'accord? T'as des restaurants à 20 euros, des restaurants à 100 euros, des restaurants à 200 euros. Dans un restaurant à 200 euros, le gars qui te sert, il va te raconter des mots pour te vendre une entrecôte, d'accord? Mais il va pas dire je te vends une entrecôte. D'accord? Voilà. Il va te sortir un mot d'un plat français que je sais pas d'où il a sorti le nom, d'accord? Tu te dis, mais c'est quoi exactement?
Tu vas débuter, tu vas pas manger.
D'accord? Et il t'explique, attention. Maintenant, le problème, c'est que t'as faim, toi, tu comprends? Il te sert un petit truc comme ça, petit
truc. Vous l'avez coupé trop vite.
Voilà. Vous l'avez, exactement. T'as faim, tu veux manger. Ça marche pas comme ça. Parce que on te fait comprendre que ça, tu te respectes, tu prends pas comme, tu manges pas comme ça. Donc tout de suite, on te met dans l'ambiance que tu dois chercher un goût que tu n'as pas l'habitude de chercher. Et ça marche. Alors ça prend du temps, mais ça marche. Alors si c'est valable matériellement pour des bêtises, parce qu'un vin, bon, d'accord, enfin bon, c'est pas des bêtises, c'est important, mais c'est pas les choses les plus importantes. La même façon pour un Kadosh Baruch Hu. Ben oui, la même façon pour un Kadosh Baruch Hu. Si je dis à quelqu'un pourquoi tu aimes Hachem. Il dit, j'en sais rien, je sais pas, depuis que je suis petit, on m'a dit qu'il faut aimer HM. Oui, mais d'accord. Mais le bon vin, tu vois que quand tu te mets en condition, quand tu mets ta tête dedans dans le vin et qu'on t'explique les étapes, etc., ben, tu découvres des choses que tu ne connaissais pas, que tu n'aurais jamais vues si tu l'as bu d'entrée. Alors, de la même façon, quand tu débarques à une prière, tu dis, oh, j'ouvre le lit, on verra bien, pas grave. Ben, tu seras comme une personne qui comprend rien au vin, qui prend une grande bouteille, qui se sert et qui la boit d'entrée. C'est une honte. T'es passé à côté d'un grand truc, c'est assourd, c'est péché de faire ça. Prends une bouteille à 2 euros, fais pas ça. Alors, la même façon pour un Kadosh Baruch Hu, t'as un potentiel d'aimer Hachem, mais tu l'utilises pas. Tu dis, je vais l'aimer naturellement, comme un bébé, il va l'aimer. Oui, mais ça, un bébé, il va l'aimer, parce qu'un bébé, il aime comme ça Hachem, parce qu'il est pas capable d'aller plus loin. Mais toi qui es capable d'aller plus loin, qui est capable de réfléchir, id bonenout, l'amour que tu vas générer est beaucoup plus fort. Et c'est ça ce qu'il veut dire ici le Morazaken. Le Morazaken, il te dit ici, avec la réflexion, tu peux générer un amour et une crainte intellectuelle. Donc, intellectuel, ça veut pas dire froid, parce qu'aujourd'hui, intellectuel est synonyme de froid. Quand je dis intellectuel, ça veut dire détaché, comme ça. Pas du tout. Intellectuel, ça veut pas dire froid. Intellectuel, ça veut dire réfléchi. Ça veut dire c'est pas un truc que t'as fait sur un coup de tête, c'est un truc que t'as pris du temps pour réfléchir. Donc, de la même façon, si tu te poses la question, finalement, qu'est-ce que c'est HM pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui m'a apporté dans ma vie? Pose-toi la question. N'aie pas peur de te poser la question. Et tu vas voir que quand tu vas te poser la question, tu vas commencer à arriver à des réponses qui vont te construire ton amour d'Hachem. Alors après, quand t'as un amour construit d'Hachem, cet amour, il bouge pas. Quand t'as un amour qui est venu sur un coup de tête parce que t'es venu, t'as dit, Laura, Lila, t'as décollé, ben c'est fini. Après, t'as mangé le boulot le soir, t'as oublié, Laura, Lila. C'est vrai. Tu l'as oublié, Laura, Lila. C'est fini. Tu l'as oublié. Pourquoi tu l'as oublié? Parce que tu n'as pas réfléchi à ça. Tu n'as pas réfléchi à ça. Par contre, maintenant, on a besoin de ça. Je dis pas qu'on n'a pas besoin, mais c'est pas comme ça qu'on se construit. Comment tu vas te construire? Tu vas te construire par la réflexion. Et ça, c'est pas qui pour, c'est tout le temps, ça. La réflexion. Réfléchir. Alors maintenant, M. Benita avait une question. Vas-y. Il a oublié.
Ouais, enfin, en vrai, ouais, ouais, pratiquement.
Bon,
ouais.
Vous êtes vous n'êtes pas obligé d'en refaire une nouvelle, hein.
C'est la peur qui nous fait avancer, hein,
non,
quelque part.
Non, non. C'est la peur. On me dit, il faut l'aimer avec l'intellectuel, et on cite l'exemple du vin, etc. On l'a goûté, on l'a touché.
C'est moi qui disais, c'est un balise.
On l'a goûté, on l'a touché, on l'a vu. Mais là, on me demande d'aimer quelqu'un et de que j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, j'ai jamais truc. Quelqu'un de virtuel.
Le non.
Le vin, on l'a goûté.
Et pas virtuel.
Moi, je suis désolé. Hein, voilà. On me dit d'aimer quelqu'un que je connais même pas.
On vous demande d'aimer quelqu'un que vous connaissez pas, mais qui est partout.
Peut-être, mais pourtant, il faut que je le sente, il faut que je le voie, il faut oui. que je le touche, il faut que, comme le vin, il faut que je le bois. Et là, je vais dire, c'est un bon vin. C'est un monsieur qui a une peau qui est tendre, qui est jolie, qui est bien.
Oui, mais vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées, qui fonctionnent très bien. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous prenez dans le monde, il y a 50 ans, quelqu'un qui avait de l'argent, il devait avoir de l'argent. C'est-à-dire, il fallait avoir des billets, il fallait avoir de l'argent dans un coin. Enfin, de l'argent, quoi. De l'argent, un lingot, de l'argent. Aujourd'hui, on a de moins en moins de monnaie dans nos poches. De monnaie et même de billets. C'est-à-dire qu'on a finalement, ta paye, tu la reçois comment?
Virement.
Tu la reçois par virement.
Mais pas chèque.
D'accord, c'est même plus un chèque. Ouais. C'est même pas tu vois l'argent. Ouais, ta paye, tu la reçois par chèque, et l'État, enfin par virement, et l'État il te prend maintenant déjà, ça, il te ponctionne ouais. déjà, ça partait au début, bon, c'est comme ça. D'accord. À la source. Ouais, comment tu payes ton loyer?
Virement, ouais.
C'est même, tu le payes même pas, on te le prend directement automatiquement, t'as un prélèvement. D'accord. Comment tu vas au magasin, tu payes avec quoi? Avec un morceau de plastique?
Avec
ouais. virtuel. D'accord. Donc ça veut dire, non mais ça veut dire quoi?
Oui, c'est vrai. Je paye avec.
Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, imaginez maintenant quelqu'un qui vient d'il y a un siècle et qui débarque dans notre réalité, qui dit mais attendez je comprends pas, comment avec un morceau de plastique tu vas au magasin, comment ça marche?
Oui, mais j'ai le plastique.
Bah, tu vas lui expliquer que derrière ce morceau de plastique il y a une vie, il y a une histoire, etc. Et que ce morceau de plastique signifie beaucoup de choses.
C'est là j'ai un plastique, collé. Je le sens, avec contre ce plastique j'ai un objet, je le sens, il est dans un sac, mais là on me dit d'aimer quelqu'un que je connais même pas, jamais vu,
justement, je le vois, je le sens, il est là, je le sens. On va continuer. Joseph, vous avez autre chose à dire?
C'est difficile, hein.
Je dis bon, ça passe.
Ah, monsieur, il y a un bon whisky ici.
Tenez,
10 ans d'âge. Bon, c'est pas. Il vaut pas 200 euros, mais.
Pas loin,
Albert,
pas loin.
Albert Lourd.
C'est que ça veut rien dire, hein. Ils ont fait le. T'as un whisky Lidl, là. Lidl ou je sais pas quoi, là.
Il paraît qu'il est excellent.
Margot.
Oui, Margot.
Non, mais c'est pas 15 euros.
Non, tu ne prends pas des gilets jaunes.
Wow, c'est le meilleur du monde. Coûte 15 euros.
Non. On boit des whisky à 150 euros.
Non, mais d'accord. Maintenant,
c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là qui l'a amené.
Bon, on a quand même essayé.
D'accord, vous allez très bien.
On continue.
Qui est vendu à Lidl, Château Margaux, un truc comme ça, 15 euros.
Le Château Margaux, c'est le vin.
Oui, je sais.
Non, ils font pas du Château Margaux, là.
Ah, peut-être
Ok.
Peut-être l'équivalent.
Ah, peut-être.
Bon. Très vrai, on continue. Donc, Dylan Morazaken. On refait la parenthèse de Pourim.
On y va.
Messieurs, donc je continue. Donc, vous voyez, qu'est-ce que tu dis, Yann Morazaken? Tu dis ici une idée très forte. Il te dit, qu'est-ce que c'est une teshuva de haut niveau? Une teshuva de haut niveau, c'est une teshuva qui est venue par la réflexion. Pourquoi la réflexion? Parce que la réflexion a la capacité de créer des sentiments intellectuels. Et un sentiment intellectuel, c'est quoi un sentiment intellectuel? C'est un sentiment qui est généré par l'esprit et qui est là tout le temps pour rester. Ouais. Je vais aller plus loin pour expliquer ce que je veux dire. Donnez un exemple. Si je pose une question à quelqu'un, je lui dis, messieurs, on est là. Alors attendez, on va la passer. Voilà. Je pose une question à quelqu'un, je lui dis, est-ce que tu aimes ton fils?
Bah, oui.
Bien sûr. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi l'aimes-tu?
Je donne tout pour ton fils.
Attendez, pourquoi?
Mon fruit. C'est toi qui l'as mis.
Pourquoi?
Parce que c'est mon sang, c'est ma chair.
Très bien. Donc ça, c'est un amour naturel.
Ouais.
D'accord. Est-ce que tu as peur de ta femme?
Oui.
Ah, alors, bien sûr.
Mais oui.
Alors, il y a deux réponses.
Pourquoi?
Il y a deux réponses.
Pourquoi? Pourquoi quoi?
Il y a deux réponses.
Parce que tu l'as
posé. Parce que tu l'as posé.
Il y a deux réponses.
Parce qu'elle a l'exclusivité.
Non, j'ai fait.
Charles.
Les gars, ça. D'accord. Bon, alors reprenons notre histoire. On va parler des enfants. Je dis à quelqu'un, je lui dis pourquoi. Je lui dis pourquoi tu aimes ton fils? Pourquoi tu aimes ta femme? Qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Je sais pas, parce que je l'aime, c'est comme ça. Donc c'est un amour qui est, on va parler des enfants déjà. C'est un amour qui est de bas niveau. D'accord? C'est un amour qui peut rester toute la vie. C'est-à-dire, ça veut dire que tu peux avoir une personne qui est jusqu'à 120 ans, tu lui dis pourquoi tu aimes ton fils? Si j'aime mon fils, parce que c'est comme ça. Non, non, attendez, non, non, pas parce que je veux revenir, parce que c'est comme ça.
Oui, mais.
Non, après, deux secondes, attendez, save la nout. Voilà.
Patience.
Vous savez, le premier mot quand vous allez en Israël, le mot que vous devez connaître, c'est quoi le premier mot que vous devez connaître? Save la nout. D'accord? Vous êtes au Moyen-Orient. Save la nout.
Le soleil.
Voilà. Save la nout. Calme. Je parle pas de vous, je parle save la nout.
Save la nout.
Ok? Alors, on continue.
C'est ceux qui sont les moins calmes qui disent ça.
C'est quoi, hein? Oui, ça veut la note. Je continue. Donc, on te dit maintenant, pourquoi tu aimes ton enfant? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est ma progéniture, parce que c'est une partie de moi, parce qu'il n'y a pas besoin de raison de l'aimer. Très bien. Maintenant, je te dis, imagine-toi maintenant que tu te mettais à réfléchir pourquoi tu aimes ton fils. Ça, c'est plus compliqué, ça.
Il y a raison.
Te donner une raison. Ça ne veut pas dire que tu vas l'aimer parce qu'il y a une raison.
Il n'y a pas de raison.
Il y a une raison. Bien sûr qu'il y a une raison. Non. Bien sûr qu'il y a une raison. Tu peux trouver une raison?
L'attachement.
Ah, il est beau, il est gentil. Il est
ça, ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu vas t'obliger à lui trouver des qualités.
C'est ça, des qualités.
Chose que tu n'aurais pas fait. Si tu l'aimais comme ça. Tu dis, moi, t'es mon fils, je t'aime comme tu es. D'accord? Que tu sois un blaireau, que tu sois un génie, je t'aime quand même. Mais quand tu vas chercher des raisons pourquoi tu l'aimes, là, du coup, tu vas lui trouver des qualités qu'il a déjà, mais que tu n'as jamais vues. Pourquoi tu ne les as jamais vues? Parce que tu les as jamais cherchées.
Donc tu découvres.
Donc tu vas les découvrir. Donc là, du coup, vous voyez que chercher à aimer quelqu'un en t'expliquant pourquoi tu l'aimes, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Pareil pour sa femme. Au début, tu dis pourquoi tu aimes ta femme. Quand il vient de se marier, il va te répondre des réponses qui sont bidons. Il sait pas, parce que je suis attiré par elle, etc. C'est des ch'tus, c'est des bêtises. D'accord?
Après,
non, mais c'est vrai, voilà. C'est-à-dire qu'après, tu vas t'obliger à trouver des qualités. Et c'est comme ça que le Midrash explique, il dit, ça c'est la qualité d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, comment il a découvert Hachem? Comment il a aimé Hachem? Abraham Avinu, il a aimé Hachem par sa réflexion.
Il a cherché,
il est arrivé à la conclusion que il faut aimer Hachem. Une conclusion rationnelle qu'il faut aimer Hachem. Seulement, Abraham Avinu, avant de partir, il a dit, mais attends Hachem, moi, pour te trouver, j'ai pris 40 ans. D'accord? Et qui me dit que mes enfants, ils vont prendre tellement d'années pour te trouver? Et mes enfants, mes petits-enfants, etc. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Hachem a dit, je te donnais le cadeau, que tes enfants et tes petits-enfants, tout ton héritage, ils m'aimeront naturellement sans chercher. Ouais. Donc c'est le cadeau qu'on a. Nous aimons Hachem sans faire d'efforts. Ouais. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'on doit se suffire de ça. Parce que cet amour, c'est un amour de bas niveau. Et si tu veux après arriver à un amour de haut niveau, c'est un amour de réflexion. C'est un amour de tzadikim. Mais en vérité, je dis amour de tzadikim, mais c'est pas que le tzadikim. Chacun de nous peut arriver à ça. Quand tu réfléchis à quelque chose, automatiquement, tu as une autre relation avec la chose. Bien sûr. Alors pareil, avec n'importe quelle chose, je vous ai parlé d'un cracker, je vous ai parlé d'un vin, je vous ai parlé de vos enfants, je vous ai parlé de votre femme, je vous ai parlé de votre travail, de n'importe quoi. N'importe quelle chose dans la vie que tu aimes ou que tu détestes, d'accord? Lorsque tu mets ta réflexion, lorsque tu mets ta tête dedans, ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension. Parce que sinon, finalement, quand tu aimes, si tu mets pas ta tête dedans, ça veut dire que tu aimes comme un animal. Un animal aussi, il a des pulsions. Mais c'est des pulsions qui sont très limitées, qui sont très primaires, qui sont pas du tout évoluées. Alors que quand tu mets ta tête dedans pour réfléchir, tu accèdes à d'autres choses. Donc pose-toi la question. La prochaine fois quand tu dis, mais finalement, j'aime pas ma femme. Je sens pas que je l'aime. Pose-toi la question. Je dis, mais pourquoi devrais-je l'aimer? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et tu vas voir. Quand tu cherches, tu trouves. Bien sûr, c'est un cadeau qu'Hachem t'a donné. Ta femme, tes enfants, ton travail, tout ce que tu as, ta maison, c'est un cadeau. Mais si tu ne cherches pas, tu trouves pas. Tu ne cherches pas, tu te casses pas la tête, tu trouves pas. C'est pour ça qu'on te dit, la chassidou t'explique, il te dit, tout démarre par la tête. Rabat, c'est les initiales de Chochma Bina Da'at. Il faut réfléchir. Ça, il n'y a pas de secret. Tu réfléchis. Ça se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul.
Alors oui. Pour réfléchir, il faut bien faire le vide dans ce cas. Pour pouvoir en mettre la place.
Aussi, oui. Il faut aussi faire le vide.
Si je ne fais pas le vide, tu ne veux pas entendre l'autre qui te dit. C'est impossible. Ça veut dire que l'autre est censé te dire les choses que toi tu peux entendre, que si toi tu fais le vide en toi. Et sinon tu n'entends pas. Ouais. Est-ce que tu es perturbé par tout ce qui t'entoure, hein? Mais après, pas libéré.
Alors vous savez, je vais aller plus loin pour expliquer, parce que là, il faut faire le vide aussi, vous avez raison. Je vais aller plus loin pour expliquer, là j'ai parlé d'amour, hein, je vais parler de crainte aussi.
Le défaut, c'est ton fils, tu l'aimes pas, mais il est devant toi. La couleur bleue, tu l'aimes, mais il est devant toi. Le ciel, tu l'aimes pas, mais il est là. Akadosh Baruch Hu, bon, il faut que c'est lui qui organise les choses.
C'est ce que je viens d'expliquer. C'est que tu m'as dit par exemple la couleur bleue, le cracker, je l'aime ou je l'aime pas. En vérité, le sentiment d'amour que j'ai par rapport à ce que je ressens est un sentiment qui est très primaire. Le vrai sentiment que je devrais avoir, c'est un sentiment qui réfléchit. Alors quand tu réfléchis, la réflexion n'a pas de limite. Elle peut s'imaginer ce qu'elle voit et ce qu'elle ne voit pas. Je vais continuer. J'ai parlé de l'amour. On va parler de la crainte aussi maintenant. Il dit « Velo dailo be'ava » je suis en bas de la page 151. « Velo dailo be'ava tivit amsuderet levad » On ne peut pas se contenter de l'amour naturel qui est latent, qui est en nous. Qu'on a dit, qu'on a hérité de Avraham Avinu. Vechel Beira Vafara de Moucha Canada. C'est pareil aussi en ce qui concerne la peur, ou bien la crainte, ou la honte. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Quand on dit à quelqu'un, comment tu définis la crainte d'Hachem? Il y aura plusieurs réponses.
T'as peur.
T'as des gens qui vont te dire, à peur.
Ouais.
J'ai peur.
Ah oui. Tu vas punir, tu vas arriver à l'enfer, on va te brûler.
T'as des gens qui vont te parler de la crainte. Et t'as des gens qui vont te parler de la honte. Je vais expliquer la différence entre ces trois termes. La peur, la crainte et la honte. En hébreu, c'est yira, pachad, yira et bochet. Je vais expliquer la différence. Je vais donner un exemple concret. Imaginez par exemple qu'il y a un loup qui rentre dans la salle maintenant. Et qui a très très faim, qui n'a pas mangé depuis une semaine.
D'accord.
Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans votre cœur?
C'est lui. C'est quoi?
Il va se soulever.
Hein?
On va avoir peur.
Votre cœur va battre à quelle vitesse?
Très rapidement.
Pourquoi?
Parce que tu n'as pas l'habitude d'avoir un loup déjà.
Est-ce que vous avez peur? Vous avez peur? Mais est-ce que votre peur est intellectuelle ou physique?
Physique.
Elle est physique. C'est-à-dire vous avez peur comme un petit chien aurait vu quand il voit le loup rentrer, il a peur. Son cœur bat, il a peur. Très bien. Maintenant imaginez, vous êtes avec moi? Maintenant imaginez que c'est un autre cas. Vous avez entendu dans les infos qu'il y a un loup qui tourne dans Paris. Et on ne sait pas où il est.
On n'a pas peur là.
Il y a un loup qui tourne dans Paris, mais on ne sait pas où il est, on ne l'a pas trouvé, on pense qu'il est parti dans la forêt, mais peut-être qu'il s'est caché quelque part et qu'il va ressurgir, on ne sait pas. Donc du coup, il y a une crainte. Maintenant, il faut bien te sortir de chez toi. Tu dois aller au boulot, tu dois aller chez faire tes courses, etc. Donc tu sors. Donc tu sors et tu es craintif, tu as peur, quoi. Tu as peur. Maintenant, est-ce que ton cœur tremble à ce moment-là?
Non.
Pourquoi ton cœur ne tremble pas? Parce que le loup, il n'est pas là. Tu ne le vois pas, le loup. Seulement, comme tu sais que peut-être il y a un loup, donc tu as une crainte. D'accord? Pareil, on te parle par exemple, tu sais, un fou qui s'appelle Ahmadinejad qui veut faire une arme atomique. C'est une crainte. Maintenant, est-ce que c'est une peur? Est-ce que je tremble? Non, je tremble pas. Par contre, quand tu entends, là, ils ont entendu la sirène. Quand tu entends une sirène qui sonne en Israël et tu sais que la sirène est là et que ça va tomber, là, il y a des gens qui tremblent parce qu'ils comprennent que s'il y a une sirène, c'est qu'il y a un missile qui est lancé, qui est là. Il arrive, c'est imminent. D'accord? T'entends un boom, tu trembles, c'est normal. Ton cœur tremble. Donc, on a deux choses. On a parhad et on a yira. Parhad, la peur. La peur, c'est balev, c'est dans le cœur. Yira, la crainte, moar, dans l'esprit. C'est très bien ce que je viens de dire. D'accord, c'est déjà pas mal d'avoir la peur et la crainte. Maintenant, j'ai une question. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que vous ressentez? De la peur ou de la crainte?
Pardon?
Par rapport à Hachem, qu'est-ce que vous sentez?
Les deux.
Est-ce que le jour de Kippour, votre cœur va plus vite que d'habitude?
Non.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas peur?
Non, non.
C'est ce que
on est serein.
On est angoissé.
On fait chouva.
Je crois que c'est vrai.
Michel, tout va bien se passer.
C'est une question, je pose.
On est en condition.
Dans la tefila de Yom Rosh Hashanah, Yom Kippour, on dit Uvechen, ten pachdecha Hashem Elokeinu al kol ma'asecha. On demande à Kadosh Baruch Hu de placer pachad. C'est quoi pachad, monsieur Yazid? De placer la peur. Maintenant, concrètement, est-ce qu'on arrive à avoir peur? Est-ce qu'on tremble en Shalom Kippour?
Non.
On tremble pas. Par contre, la crainte, on peut avoir. Dans la tête, on s'imagine, on comprend qu'on est jugé, et on comprend que tout ce qui s'est passé l'année dernière, a été décidé Rosh Hashanah l'année d'avant, donc on comprend que c'est chaud, on comprend que voilà. Donc il y a une crainte. Une crainte qui est dans la tête. Et Tzadikim, il tremble. Tzadikim, tu les vois, il tremble, il pleure, comme je sais pas quoi, il pleure. Une fois, c'était quelques jours avant Rosh Hashanah, et le rabbi devait faire un soin dentaire, elle avait mal aux dents. Alors le docteur, elle a posé la question à la femme du rabbi, à l'épouse du rabbi, elle a dit, est-ce que votre mari a peur de la visite du dentiste? C'est une question, d'accord? He's afraid en anglais. Alors elle a répondu, elle a dit, maintenant ce qui fait peur à mon mari c'est Rosh Hashanah. On voyait clairement là, c'est-à-dire trembler, enfin, vraiment, c'est-à-dire physiquement, oui.
Donc physiquement elle a peur.
Physiquement, oui. Le tzadikim, physiquement. Physiquement, il sent Hashem devant, il tremble comme le loup. Comme le loup.
Pourquoi elle aurait peur?
Parce que le loup il est là. C'est parce qu'il est conscient, il voit devant lui les enjeux. C'est-à-dire, toi, l'Armageddon, tu t'imagines? Lui, l'Armageddon, il voit devant ses yeux.
C'est différent de nous.
C'est que c'est Armageddon?
Armageddon.
Il voit devant lui. Il voit devant lui la destruction qui arrive. C'est parce que c'est Armageddon?
La fin du monde.
C'est un monde. Armageddon, il dit, sera en France. Armageddon. La fin du monde. Le tzadik, il le voit devant lui. Tu comprends?
C'est un mot hébreu, ça?
C'est un mot très ancien. D'accord. Donc le tzadik, il a peur. Donc on a dit il y a trois choses. Tu as la peur, tu as la crainte, et après tu as la honte. C'est quoi la honte? La honte, c'est intéressant. Quand tu vas devant un tzadik, comment tu te sens?
Honteux.
Tu te sens petit, tu te sens honteux. Pourquoi tu te sens honteux? Est-ce que tu as peur du tzadik? Non, t'as pas peur. Pourquoi t'as pas peur? Parce qu'il va rien te faire. Mais tu te sens
petit à côté de lui.
Non, c'est pas seulement petit. Tu te sens tout nu. Tu comprends? Là, t'as des vêtements qui cachent. Mais quand t'es devant quelqu'un que tu sens, il a un scanner. Tac, il te voit. Donc, tu te sens honteux. Maintenant, ça, est-ce que la honte, c'est quelque chose? Est-ce que la honte, est-ce que ton cœur tremble? Non. Est-ce que t'as la crainte? Non plus. La honte, c'est un niveau encore plus fort. D'accord? C'est un niveau encore plus fort. C'est que tellement je réalise qu'Hachem est grand, que je me sens tout petit et que je me sens honteux. Ce que je viens de vous dire, ce sont les trois niveaux qu'il y a dans la crainte d'Hachem. Premier niveau, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Deuxième niveau, j'ai la crainte dans ma tête, j'imagine, je comprends, etc. Troisième niveau, c'est encore plus fort. C'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai honte d'Hachem. Ça veut dire que tellement pour moi c'est quelque chose de concret que j'ai honte d'Hachem. On peut arriver à ça. D'ailleurs, si on arrive à faire devant un tzadik, pourquoi? Il t'a montré des forces, il t'a montré des pouvoirs, le tzadik? Non, il t'a pas montré. Mais quand tu arrives devant et que tu ressens la kedusha, t'as honte. Mais ça, la honte, elle se passe à quel niveau? Dans ta tête. Parce que tu as compris que t'es devant un tzadik, et tu sais ce que tu as fait, donc tu te sens petit, donc tu as honte. Ça se passe pas dans ton cœur, cette honte, c'est dans ta tête. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ta tête est infiniment plus grand que ce qui se passe dans ton cœur. Ça, c'est un grand chidouche, j'habite. Les gens, ils pensent, ils disent, ce qu'il y a dans la tête, oh, c'est léger. Dans le cœur, ah, je l'ai senti, je le sens. Morazaka, tu dis, ce que tu sens, c'est des bêtises. C'est pas des bêtises, mais c'est rien. C'est pas comme ça qu'on définit. Ce que t'as compris dans ta tête, que t'as bien compris, ça, c'est un sentiment qui bougera jamais. Alors, c'est vrai qu'au début, il est intellectuel, mais il bouge pas. Et c'est pour ça, je reprends l'exemple du début du cours. Quand t'as une personne qui a fait de chouva, on connaît des gens comme ça, et peut-être que chacun de nous a été un peu comme ça. Chacun de nous a des choses sur lesquelles il a fait de chouva au bout de 10 ans. Moi, je connais des gens comme ça, ils ont fait de chouva, ils faisaient un peu les fêtes par-ci par-là, Shabbat, pas encore. Il a pris 10 ans pour faire Shabbat. Ou bien, chacun, mettez pas les tefilines, mettez les tefilines. Chacun avec ses mitzvot, d'accord? Quand c'est quelque chose que tu as réfléchi, on parle d'une décision mûrie, comme ça on dit, une décision mûrie, réfléchie. Une décision qui est mûrie et réfléchie, elle bouge pas. Elle reste qu'à la fin de la vie. Après, on peut toujours changer d'avis, mais ça bouge pas. C'est ce que dit le Morazaken. Ça, c'est ce qu'on appelle une teshuva de haut niveau. On va tourner la page.
On s'est convaincu soi-même. On s'est convaincu soi-même par la réflexion.
On s'est convaincu soi-même et surtout, on est devenu convaincu. C'est-à-dire, c'est pas, je ne répète pas bêtement quelque chose que je connais. Je suis convaincu. J'ai compris. Azaï, à ce moment-là, page 252, Azaï, à ce moment-là, Nikret Aem Revetzet Alef Rochim. Alors là, à ce moment-là, on dit que Bina Aem Revetzet Alef Rochim. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar te dit, lorsque le passage qui te parle de la mer qui est en train de couver sur les Ephrochim, les. Qu'on appelle ça les.
Les griffes.
Non, Ephrochim. Les. Ah mince, comment dire. Ah, vous avez la traduction ici en plus. Les petits. La mer qui sait. Les oisillons, voilà. Alors il te dit comme ça. Tu sais ce que dit le Zohar? Il dit, c'est quoi les oisillons? Les oisillons, c'est ce qui est généré par l'intellect, c'est l'amour et la crainte. Alors il te dit, hein?
Petit poussin.
Petit poussin, voilà, Razak. Donc, petit poussin. Donc, il te dit comme ça. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit, tu vois le pasouk, qui te parle, tu assistes à une scène où tu vois la mère qui est en train de revêtset, qui est accroupie, qui est couchée sur les petits poussins. Ok, cool. Ça veut dire quoi? C'est quoi les petits poussins? Les petits poussins, dit le Zohar, c'est l'amour et la crainte. C'est les enfants. C'est l'amour et la crainte d'Hachem. Maintenant, en général, l'amour et la crainte d'Hachem est libre. C'est-à-dire qu'elle vient de ton cœur, des fois elle est là, des fois elle est pas là, elle est libre. Des fois je chante, des fois je chante pas. Quand je chante, tant mieux, quand je chante pas, prends pas la tête. Ok? Là, on te dit non. On te dit, Ahem, la mère, c'est quoi la mère? C'est Bina, c'est l'intellect. Revêtset, elle est accroupie sur l'amour et la crainte. Ça veut dire que l'amour et la crainte sont générés et sont dirigés par l'intellect. Donc quand tu as la mère qui est sur les poussins, ça les protège. C'est pas que un matin tu te lèves, tu sens, je sens que j'ai l'amour d'Hachem, tant mieux, je me lève à la synagogue, j'arrive à 4 heures du matin, et un matin je me sens pas, bah tant pis, je viens pas. C'est la réalité. Ça veut dire que, bon, je donne des exemples comme ça. Ça veut dire que, quand l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas générés par l'intellect, ça peut être très fort un jour, et le lendemain il reste zéro. Alors que quand il y a l'intellect qui est là, qui régule tout ça, automatiquement, revêtset, c'est accroupi, ça reste. Maintenant, Mordechai va aller plus loin. Il veut dire, comment définir l'amour? Quel est le niveau le plus fort de l'amour d'après la Torah? C'est quoi l'amour? D'accord? C'est quoi l'amour? Alors, veine. Parce qu'encore une fois, on essaie de comprendre. On a compris qu'il y a l'amour primaire, l'amour du cœur, qui est pas mal, mais qui est très limité. On a l'amour de l'intellect. Alors, quel est l'amour le plus élevé? Alors, regardez. Veine, ikar, ahava, idabkudrucha, berucha. L'essentiel de l'amour est l'attachement du souffle avec le souffle. Alors, je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Roucha ici, c'est le souffle, mais le souffle dans le sens l'esprit. Ça veut dire, on va prendre un exemple concret. Par exemple, tu veux t'attacher avec ton fils, t'attacher avec ta femme. Quelle est la façon la plus belle de montrer à ton fils que tu l'aimes?
C'est d'aimer leur mère.
Hein?
PlayStation.
Non, c'est une question sérieuse que je pose.
C'est d'aimer leur mère.
C'était la réponse de l'année dernière, ça. Ah. La mère. Une nouvelle, ça.
Alors là, c'est un enfant, je peux le faire. Non,
comment tu lui exprimes? Comment tu lui développes un? Mettons de côté la mère, je parle de l'enfant. Comment tu manifestes ton amour? Comment tu exprimes ton amour envers lui?
Dans le schéma,
la parole.
Dans le schéma, il nous dit l'amour, tu aimeras avec ton cœur. Et là, on me dit, tu aimeras avec ta tête.
Non, on n'a pas dit ça.
Ah, si.
Non, mais je comprends. Mais on dit de tout ton cœur. Ça veut dire
voilà.
Que, mais
pour, donc, c'est avec le cœur que j'aime, pas
mais,
avec la
mais
tête.
Mais pour que ce soit de tout ton cœur, il faut que la tête soit dedans.
Il faut comprendre ce qu'il veut.
Ah oui, il faut comprendre ce qu'il veut. Mais reprenons l'enfant. Comment tu aimes ton enfant? Comment tu l'exprimes, ton amour? Je vais être souriant vers lui, je vais lui rendre service, je vais lui acheter une PlayStation, vous avez dit, une PlayStation, je vais lui offrir un séjour. Je vais lui donner de l'argent de poche, je vais lui montrer que je l'aime. C'est vrai? Est-ce qu'on offrant, non, pas spécialement, aussi, mais bon. Est-ce qu'en offrant une PS4 à ton fils, tu lui as montré que tu l'aimes?
Non.
Peut-être, oui, peut-être, pourquoi pas? Mais je ne sais pas si l'expression d'amour qui est entre vous deux était profonde.
Ah oui.
Ça veut dire qu'une PS4 n'a pas exprimé un amour profond entre toi et ton fils. Non, ça dépend. Ça dépend pas.
Ça dépend.
Non, non.
Tu sais quoi, s'il te réclame, tu je veux.
Lui, c'est par intérêt.
Oui, il te réclame, tu lui as donné. Tu veux lui faire plaisir et tu veux au fond de ton cœur lui faire plaisir. Mais la PS4 n'a pas exprimé l'amour profond que tu as envers ton fils.
C'est pas une preuve d'amour.
C'est extérieur, ça. C'est extérieur.
C'est un plaisir, là.
C'est un plaisir. Non, mais c'est une manière de lui faire plaisir aussi. Pas de problème. Je lui fais plaisir. Mais ça n'a pas exprimé la profondeur de l'amour. D'ailleurs, on sent que c'est fake, c'est faux, c'est superficiel. D'accord? Te dit le Zohar, tu veux savoir comment tu vas montrer à quelqu'un que tu l'aimes? C'est quand tu vas attacher les esprits. Quand tu vas parler avec lui. Tu vas parler avec lui. Parler. T'asseoir avec lui. Tu vas parler avec lui. Tu vas échanger quelque chose. Tu vas dire un mot, il va dire un mot. Idabkut rucha verucha. On va attacher un esprit avec un autre. Maintenant, attacher un esprit, c'est un grand mot peut-être, les grands esprits se rencontrent, etc. C'est peut-être un grand mot, mais c'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire, ne pas dire, bon, mon fils a une pulsion, il veut une PS4, je vais assouvir sa pulsion, je vais lui donner sa PS4. C'est bien. Mazal, peut-être qu'il la mérite, tu vas lui donner la PS4, t'as pas de problème. Mais est-ce qu'on peut dire que tu t'es lié à ton fils à ce moment-là? Non. Comment tu t'es lié? Quand t'as parlé avec lui. Quand tu sais ce qui se passe dans sa tête, quand t'es dans sa tête, tu es au courant de ce qui se passe, t'es au courant de ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui l'intéresse pas? Qu'est-ce qui se passe dans sa classe? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa journée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'intéresse? Non, pas pour lui faire une enquête, pour savoir comment mieux le gérer. Pour t'attacher avec lui. Ça, c'est très difficile, ça. C'est très difficile. Et souvent, on est tenté d'acheter nos enfants, comme vous avez dit tout à l'heure, avec l'argent. Dire, je veux lui payer un séjour, je veux lui payer ci, je veux lui payer ça. Et après, quand tu fais la tête, tu dis, mais je comprends pas, avec tout ce que j'ai payé, fais la tête. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu sens un fossé entre toi et lui. C'est horrible, ça. C'est horrible quand tu sens un fossé. Alors, je parle de l'enfant, mais je pourrais parler de la femme aussi. Tu peux acheter un très beau bijou à ta femme. Tu peux l'amener en vacances 5 fois par an. D'accord? Dans les îles Maldives. Mais ça ne change pas. Tu peux lui acheter un bijou tous les jours. Tu ne l'achètes pas avec ça. Pourquoi tu ne l'achètes pas? Tu peux l'acheter temporairement, mais tu ne t'es pas attaché à elle. Tu ne t'es pas attaché à elle. Pourquoi? Parce que tu sais. Parce que ça ne veut pas dire que tu sais ce qu'elle veut au fond d'elle. Tu ne t'es pas attaché à elle, c'est pas ce qu'elle veut. Quand tu parles avec quelqu'un, quand tu vas rentrer chez toi à la maison le soir, et que tu vas écouter ta femme parler. Elle va dire, ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai appelé ma copine, elle m'a dit ci, etc. Et que toi, ça te prend la tête, parce que t'as pas envie d'écouter ça, etc. Donc tu vas écouter, tu vas dire, bon, je vais essayer maintenant de mettre dans sa tête, c'est impossible, mais c'est pas grave, je vais essayer de communiquer. Ouais, de communiquer.
C'est ça, lier son esprit.
Évidemment, c'est quoi alors?
Pas ton esprit.
Mais je lis mon esprit. Je lis les deux esprits. C'est ça, lier les esprits. Après, évidemment, non, je me soumets pas. Je lis mon esprit. On lit un esprit avec un autre. Il te dit le Zohar. Il te dit la relation la plus forte qu'il y a entre un homme et une femme. D'accord? C'est pas la relation conjugale. C'est la relation intellectuelle. C'est lorsque les esprits se rencontrent. Lorsque tu sens qu'on communique et qu'on travaille ensemble sur un projet. Ça,
mais ça, n'importe quoi, c'est pas grave, on peut l'écouter.
Non, mais c'est après, n'importe quoi.
Je travaille.
Oui, mais il y a des gens qui parlent, par exemple, lui dire, par exemple, quelle course je dois faire, ou qu'est-ce que je dois acheter, ou est-ce que t'as vu tel acteur, ou telle actrice, ou tel film, c'est des bêtises, ça, c'est pas de la communication, ça. Ouais. Ça, c'est du blabla, ça.
Ouais.
Comment? Pareil, dire à ton fils, t'as vu, il y a une équipe, ou Mbappé, etc., ça, c'est des bêtises, ça. Ça n'en a rien à faire, que la France, elle a gagné, ou l'Islande a gagné, c'est des bêtises, ça. C'est pas une discussion. D'accord, non mais. Hein, voilà, c'est bien. Parlez avec ton fils.
Il y a un match.
Mais ça c'est bien lorsque les deux parties s'y prêtent.
Bien sûr.
Or, quelquefois, il y a une partie qui va jacter, et l'autre, tu parles au mur, c'est pareil.
C'est rarement. Le tort est rarement d'un seul côté.
Il est rarement.
Comment ça?
Le tort est à moi d'un seul côté.
Parce que la communication, c'est à deux. Échanger, c'est à deux.
J'ai jamais vu un divorce avec 100% de tort d'un côté. Des fois, t'as 50, des fois t'as 40, 60, pas plus que ça. 30,
70. Ah, 100%, c'est le mec qui avait parti faire une connerie. 100%.
Bon, très bien. Il n'y a pas que ça. Comment il est arrivé là,
etc. Tu vas dire que 60% de ce que t'as envie de dire.
D'accord. Bon, alors reprenons. Donc, vous voyez ce que dit l'Admorazaken? L'Admorazaken te dit, tu veux savoir comment tu te lies avec quelqu'un? Par l'esprit. D'accord? Comment chez Ketuv, comme c'est écrit, Ishakeni Mineshikot Piu. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, dans le passage qui dit, Ishakeni Mineshikot Piu. Dans Shira Shirim, n'est-ce pas? Le verset nous dit, il m'embrasse des baisers de sa bouche. Pourquoi? Parce que, avec quoi on peut embrasser à part la bouche? Il veut rien dire. Il m'embrasse d'un baiser. D'abord, il y a tellement de plus. Il m'embrasse des baisers de sa bouche. Le mot, dès que t'as dit embrasser, déjà on sait que c'est un baiser, et déjà on sait que c'est avec la bouche. Il m'embrasse des baisers de sa bouche. Pourquoi tu répètes? Explique le commentaire. Il dit, toi, quand tu entends le mot, il embrasse des baisers de la bouche, tu t'imagines un homme et une femme en train de s'embrasser. Mais ce que t'as pas compris, c'est quand on parle de la bouche, on parle pas seulement d'un baiser. On parle de la communication. Il m'embrasse par le baiser de sa bouche. On parle plus de la même chose. On parle aussi d'un baiser physique, mais on parle aussi d'un baiser communicatif. Piou, sa bouche. Là, c'est autre chose. Là, c'est plus le même baiser. C'est-à-dire, pose-toi la question, quelle est la dernière communication que j'ai eue avec mon fils, avec ma femme? Mais sérieuse, dernière discussion sérieuse, sérieuse. Des fois, ça peut remonter à plusieurs mois.
Bien sûr.
Des fois, tu te rappelles même pas ce qu'on a dans la fois que t'as eu. Ouais. Maintenant, tu peux parler beaucoup, parce que t'es occupé, faire ci, j'ai fait les cours, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il n'y a pas eu de discussion. Après, il dit, il n'y a pas de relation. Bien sûr qu'il n'y a pas de relation. Parce que la relation que t'as eue n'était pas une relation intellectuelle. C'est qu'il y a le mot à sa quête. Valzenemar, ouvre le nafshecha. Maintenant, on va répondre à la question de M. Benita. Et grâce à votre question, j'ai compris quelque chose.
Oui, dans le schéma, là, du cœur.
C'est écrit, Ve'avta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, ou Bechol Nafshecha. Tu veux aimer l'éternel ton Dieu, Bechol Levavcha, le tout ton cœur. Après, il rajoute, Bechol Nafshecha, le tout ton âme. tout ton cœur, toute ton âme. Bon, je sais pas, c'est la même chose, pas la même chose. C'est, quelle est la différence? C'est tout ton cœur, toute ton âme. Bon, quelle est la différence? C'est pas la même chose du tout. De tout ton cœur. C'est de tout ton cœur. Ça veut dire, j'aimais Hachem, je le sentais. Bon, tout ton cœur, je le sentais. Mon cœur le sentait. Bechol nafshicha, le tout ton âme, c'est quoi? Nefesh. Nefesh, c'est l'esprit. De tout ton esprit, de tout ton être. Ça, c'est plus compliqué. Aimer Hachem de tout mon être, c'est très compliqué.
Oui, mais il parle quand même du cœur.
C'est un effort.
Il parle du cœur.
Shehem, non, mais c'est l'étape 2. Monsieur Benitar, regardez la suite. Shehem, votre crédit est épuisé. Alors.
Non, non.
Bling, bling, bling. Bling, bling, bling.
Oh, j'ai pas beaucoup parlé là. Hein.
Remettez des pièces. Non, vous pouvez emprunter des crédits CO2.
Je donne mon crédit.
C'est pas des crédits à polluer. Hein.
Non.
C'est pas de la pollution ça.
Hein?
Vous êtes en débit.
Non, je tente. Depuis Shabbat, t'es en déficit.
Bon, alors on y va.
Shehem,
qu'ils sont.
Je me ressource.
Kol chelke anefesh. Maintenant, on va comprendre. Ah, qu'on va. C'est autre chose maintenant ce qu'on va expliquer. On te dit, il faut comprendre que. Les gens, ils pensent que comment je veux me lier avec Hachem, comment je veux exprimer mon amour avec Hachem, par des actes. J'ai mis les tefillines, très bien. J'ai lu la Megillah, très bien. C'est très bien. Effectivement, quand on commence le judaïsme, on commence par des actes. C'est un acte, on commence par des actes. Après, on te dit, il faut passer à la vitesse supérieure. La relation que tu as avec Hachem ne peut pas être définie qu'avec des actes. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Il faut que la relation avec Hachem passe par ton outil le plus précieux que tu as. C'est quoi l'outil le plus précieux que tu as?
Ta tête,
ton cerveau. Est-ce que ton cerveau s'est connecté avec Hachem? Très souvent, non. Mon cerveau est à côté. Je fais ce que je dois faire. Non, même pas. Je fais ce que je dois faire. Et je suis irréprochable. Mais mon cerveau n'est pas dedans.
Pas de cavalier.
Alors par contre, quand je vais aller dans les affaires, là, ma tête est en plein dedans. Donc au début, tu t'imagines, l'outil le plus précieux que tu as, tu l'as pas donné à Hachem. Tu l'as pas utilisé pour un cadeau de jour. C'est pas bon. De la même façon que dans la relation que tu as avec ta femme, dans la relation que tu as avec ton fils, dans la relation que tu as avec un être, la plus belle relation c'est quoi? C'est Rucha Berucha, c'est l'esprit avec l'esprit. Lorsque les esprits se rencontrent, de la même façon, lorsque tu veux te connecter avec Hachem, la plus belle relation que tu as avec Hachem, c'est lorsque tu te connectes avec l'esprit d'Hachem. Et comment on se connecte avec l'esprit d'Hachem? Par l'étude de la Torah. Et comment on se connecte par l'étude de la Torah? En se cassant la tête dans l'étude de la Torah. Parce qu'il y a étude et étude. Ben oui, comme dans les affaires. Ouais. Il y a étude et étude. Il y a étude dans le sens, bon, j'ai lu, j'ai compris, ouais, ça va. J'ai compris. Mais je ne suis pas cassé la tête. Ouais. Par contre, quand tu as Iyun, quand tu vas te casser la tête pour quelque chose, pour un Kadosh Baruch Hu, là, on peut parler de Idabkut Rucha Berucha. C'est mon esprit qui s'est attaché à l'esprit de la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais ça, je vous le souhaite en tout cas. Quand tu te casses la tête sur une page de Gemara, sur un morceau de Tanya, sur etc., tu te casses la tête pour essayer d'abord de le comprendre. De le comprendre vraiment. Et pour essayer après de le ramener à ta personne. Tu te casses la tête pour ça. T'as un sentiment extraordinaire. Rien ne peut remplacer. Ouais, une satisfaction extraordinaire. Tu sens une proximité avec Hachem. Tu sens qu'on travaille ensemble. On bosse ensemble, c'est mon associé. Je suis mon associé. On travaille ensemble. C'est extraordinaire. Idabkut Rucha Berucha. La plus belle relation qu'il y a entre deux personnes, c'est lorsque les esprits se rassemblent. C'est ça. Le Rav Sitruk, Zichrono Livracha, il raconte cette histoire. Il racontait que lorsqu'il était arrivé à Strasbourg, on lui a dit qu'il y avait, là-bas il y avait un grand Rav, un Rav Yeshiva. Alors bon, il était avec une équipe de jeunes. Alors, à Strasbourg ou à Paris, je crois que c'était à Strasbourg, ouais. On l'a dit, il y a un très bon cours d'un rave. Donc lui, il est venu. On lui a pas dit bonjour quand il est arrivé au cours. Bon, il était un peu étonné, le Tunisien, etc. L'habitude, comment vas-tu, etc. Bon.
C'est marocain. Hein?
Non, mais pas ça. Mais même ils sont très sociables, les Tunisiens.
D'accord. Laurent qui est là.
Non, pas avant encore. Ah, il n'était pas encore. Là, il arrive au cours, il s'assoit. Bon. Le Rav, je crois que c'est Ashkenaz. Le Rav, voilà. D'accord. Ah voilà. Le Rav dit pas, bon, il dit pas bonjour. Enfin, il était en plein cours. Après bon, au revoir, etc. Mais on s'est pas vraiment intéressé à lui. C'était très froid. Bon, mais le cours était intéressant. Donc il revient. Il revient un cours, deux cours, trois cours, plus, moins quelques cours. Et il pose des questions et tout. Non, il raconte qu'il dit au bout de quelques cours. Je dis pas que je cautionne forcément cette approche, hein, parce que c'est quand même très poussé. Mais il dit au bout de quelques cours, le rat vient le voir, lui dit, maintenant qu'on se connaît, on va faire connaissance. Mmh. Il dit, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Il dit, c'est quoi, maintenant qu'on se connaît? Il dit, parce que maintenant, t'es venu au cours, donc je vois qui tu es, nos esprits se sont connectés, maintenant, je vais aller plus loin, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais là, etc. Tu fais des études, tu fais ci, tu fais ça, etc. Alors, je dis pas que je consente forcément cette approche, parce que c'est une approche que je sais pas si tout le monde peut suivre. De dire que, hein, voilà, c'est-à-dire de dire que d'abord, tu dois attendre de connaître quelqu'un pour faire
pour
sa connaissance.
Pour t'intéresser à lui.
Non, oui. Pas pour t'intéresser à lui. Enfin, c'est-à-dire, tu dis, hein, je comprends finalement ce qu'il dira, mais c'est un niveau, parce que
Il a senti de la
voilà, non, moi je l'aurais pas fait parce que c'est dangereux. Ça veut dire, vous savez, par exemple, des fois, il y a des discussions, t'es quelqu'un qui te parle, tu dis, alors qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais tu sens en vérité que un n'a rien à faire ce que l'autre y raconte. Tu sais, c'est comme Baruch Hashem, tu vois. Ouais. Tu dis comment ça va, Baruch Hashem? Baruch Hashem, en d'autres termes, c'est fous-moi la paix. Je m'excuse. Exactement. Comment ça va, Baruch Hashem? Comment ça va, Baruch Hashem? Les enfants, Baruch Hashem. Ta femme, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça veut dire quoi? Des fois, Baruch Hashem, ça veut dire je suis tranquille. C'est vrai, c'est la vérité.
Bah oui. Tout le temps, tu dis Baruch Hashem. Dis-moi la vérité.
D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est un bon réflexe de dire Baruch Hashem. C'est un excellent réflexe. Mais après, d'un autre côté, des fois, tu peux avoir deux personnes qui discutent. Et il dit, alors voilà, moi je travaille ici, moi je fais ça, moi je fais ça. Mais en vérité, ils sont en train de passer du temps, quoi. Ils en ont rien à faire l'un de l'autre. C'est-à-dire que tu reviens demain, tu dis, qu'est-ce qu'il t'a raconté la veille? Il a oublié parce qu'il en a rien à faire. Ça l'intéresse pas. Il a écouté parce qu'il veut l'écouter. Parce que bon, on était assis à côté dans le train, dans l'avion. Alors, là, c'est comme, vous connaissez les discussions d'avion. Si vous avez, tu parles à quelqu'un, tu le verras probablement qu'une seule fois dans ta vie. D'accord? Tu le reverras jamais. Ça vous est déjà arrivé de revoir une deuxième fois la même personne? Pratiquement jamais. D'accord? Moi, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Maintenant, par politesse, tu discutes, etc. Maintenant, t'en as strictement rien à faire.
C'était pour meubler le temps.
Quoi? C'est pour meubler le temps, t'as occupé le temps, c'est sympa, parce que t'es un peu curieux. Monsieur Benetta, il fait tout le vol, il discute.
Surtout lorsqu'on va à Nava.
Tout le vol.
Tout le vol, vous discutez.
Ah ouais.
Par Guadeloupe, je tombe.
Par Guadeloupe, 8 heures. Mais il doit rester 10 heures à côté de moi, je ne parle pas.
Vous ne parlez pas?
8 heures, par exemple.
Je crois que c'est bon, on va gagner.
Ah, vous savez, c'est quoi le problème maintenant?
Même 10 heures.
Avant, dans les avions, on parlait beaucoup. Le problème dans les avions, maintenant, ils ont tous les écouteurs. Comme dans les métros.
Écouteurs, l'internet, tout ce que tu veux.
Bah oui.
Voilà, téléphone maintenant.
Le futur téléphone business pour demain.
Moi, je me rappelle quand j'étais petit, enfin, quand j'ai 13-14 ans, quand je prenais le métro. Je me rappelle, il n'y avait pas à l'époque des écouteurs. Les gens à l'époque, ils avaient, je crois que je prenais le métro le matin, je me rappelle à l'époque, les gens, il y avait ceux qui avaient un livre, il y avait ceux qui avaient le journal, il y avait ceux qui regardaient le journal de celui qui est à côté, d'accord? Et il y avait ceux qui regardaient le plafond comme ça, etc. Mais ça parlait, c'est-à-dire que les gens, ils parlaient. C'est-à-dire qu'à un moment, quand t'as là, tiens, t'as vu ce truc-là, les gens, ils parlaient. Maintenant, ils sont tous là avec leurs écouteurs, comme des zombies. Bon, mais revenons à notre histoire. Vous voyez ce que je vais expliquer aujourd'hui? Ce qu'on veut expliquer dans le cours d'aujourd'hui, c'est la notion que si tu veux te connecter avec quelqu'un, ça doit passer par l'intellect. Et de la même façon, tu veux te connecter avec Akadosh Baruch Hu, comment tu te connectes vraiment avec Akadosh Baruch Hu? Rucha Berucha. L'esprit avec l'esprit. Mon esprit qui se connecte avec l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est une connexion béton armé. Et c'est une connexion qui est comme la bourre, comme un volcan. Un volcan, il s'éteint aussi. Enfin, il s'éteint pas, mais il s'arrête aussi vite. Tu as un sentiment, après tu reviens 10 minutes plus tard, il n'y a plus rien. T'as mis de la lave, etc. Il a tout brûlé, tu reviens 10 minutes plus tard. Il est éteint pour 10 ans.
Quel est le mode d'emploi pour me connecter à 4 jours trop?
La réflexion. Parce que c'est la tête.
Donc étudier avec Guémara.
Tu réfléchis, tu étudies, tu te casses la tête. D'accord. Non, mais pas seulement ça, même étudier. Étudier, ça veut dire étudier. Quand tu étudies un texte, tu étudies. Étudier un maximum. Étudier, réfléchir, utiliser sa tête. Malheureusement, les gens aujourd'hui n'utilisent presque plus leur tête.
Ah oui.
Ils n'utilisent pas leur tête. D'accord. Ah, mais c'est passé vers quoi? C'est-à-dire qu'ils ont un boulot dans lequel on utilise de moins en moins la tête. À la maison, ils n'utilisent pas la tête. Ils sont devant une télé ou devant un iPod ou devant un YouTube, comme des chmars, d'accord? Comme ça. Et le met la prochaine vidéo, il attend la prochaine vidéo, il attend la prochaine vidéo. C'est-à-dire que Google a déjà décidé quelle vidéo tu vas voir la suite, tu vois, il a déjà décidé.
Ah oui,
et toi, tu te laisses dire, ah, il y a pas mal la vidéo, hein, on va continuer comme un chmar, d'accord? Et il est venu pour rester pour une vidéo de 5 minutes. Il reste 3 heures à regarder les vidéos. Donc, c'est une perte de temps, c'est bitoul zman, ça. D'accord? D'accord?
Non,
ça va. Ça fatigue, oui.
Ça fatigue.
Ça fatigue. Tu te sens plus détendu. Ça fatigue, ça fait. Ça fatigue, c'est ça, rien. C'est une perte de temps.
Et comme Facebook.
Hein? Comme Facebook, voilà. Comme Facebook. T'as fait le tour du monde, mais t'as pas un ami. L'ami, il a pas un ami.
Ouais. Mon ami.
Mon ami. Bon, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu veux avoir une vraie relation avec quelqu'un, tu étudies avec lui. Tu parles avec lui. Tu communiques avec lui, mais vraiment. Et pareil, c'est comme ça. Tu veux parler avec quelqu'un qui est assis à côté de toi. Tu peux rendre service, c'est possible, mais tu parles avec lui. quand tu parles avec les gens, tu t'imagines que les gens, ils ont un vécu, ils ont une histoire, ils ont des choses à raconter, tu as partagé avec toi, ils ont plein de choses. Mais il faut parler. Tu parles pas, t'entends pas. Tu parles pas, c'est-à-dire que chacun il est dans son coin. On peut être dans le même wagon. On va dans le même wagon et ça peut marcher pendant 120 ans. Mais personne ne se connaît, on se connaît pas finalement. On est autour de la même table, mais on va pas dire ah le plat il était bon, ah t'as vu ce qu'ils ont fait, etc. Mais ouais. On se connaît pas.
On se connaît pas. Connecté.
Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il sait exactement ce qui trotte dans la tête de l'autre qui est à côté de lui? Qu'est-ce qui te dérange maintenant? Il y a une fois une histoire de Baal Shem Tov. Une fois le Baal Shem Tov il est passé. Le Baal Shem Tov il est passé une fois à côté d'un bar. Tu entends? Il est passé à côté d'un bar. Et il a entendu deux Ukrainiens qui étaient ivrognes, d'accord? Et ils avaient bu beaucoup. Et à un moment, il y en a un qui est un russe, d'accord? Ben, justement, il passe à côté avec ses élèves, il passe à côté, il entend une discussion. Et il y en a un qui dit à l'autre, il dit, je t'aime comme mon frère. Comme ça, il vient l'embrasser. Il dit, ah non, attends, attends, doucement, d'accord? Non, mais pas du tout. Il lui dit, ah bon, tu m'aimes comme ton frère? Alors, dis-moi ce qui me dérange maintenant. Dis-moi, qu'est-ce qui me dérange dans ma tête maintenant? L'autre lui dit, je sais pas, tu m'as jamais dit. Et il dit, alors, si tu ne sens pas ce qui me dérange, comment tu peux dire tu m'aimes? Très fort comme réponse. Et le Baal Shem Tov, il a repris la réponse. Maintenant, c'est une discussion de deux ivrognes. Et le Baal Shem Tov, il a repris la discussion. Il a dit, c'est quoi, Vat Israël? La vraie Vat Israël, c'est quand tu sens ce qui dérange l'autre. Combien de personnes tu connais que tu sens ce qui le dérange? Tu sens qu'il y a un truc qui le dérange. Tu sens. Hein? Non, mais tu sens, c'est-à-dire, tu sens. Très très rare. Enfin, un niveau très élevé. Ça, c'est vrai, Vat Israël.
Et le
sens.
Ah
oui. Moi, une fois, je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva, une fois, un ami à moi qui m'a dit comme ça. Il m'a dit, j'ai pas de vrai ami. Je lui ai dit, c'est quoi un vrai ami? Il m'a dit, un vrai ami, c'est quelqu'un que même si moi j'habite en Australie, lui il habite en France, et que je vais pas bien, il sent que je vais pas bien. C'est un niveau. Comme des jumeaux, hein, c'est comme des. C'est des vrais jumeaux. Bon. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Daïlou Minuta avec Barer, d'accord? Bon, ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on va développer la semaine prochaine comment communiquer avec Hachem par l'intellect. Mais déjà, on a quand même pas mal développé aujourd'hui. Expliquer que la plus belle relation qu'on avait avec Hachem, avec n'importe quel être humain, c'est la relation qui est liée à l'intellect. On s'arrête là pour aujourd'hui.
Arbitre. Oui.